CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus.
Le MAG du pays Midi-Quercy consacré à la culture. On parlera dans une deuxième partie de cette édition du salon Art-Quercy dont un message se tiendra ce mercredi. À Caussade, j'aurai au micro de CFM Caylus Geneviève et Jean-Pierre Condette, initiateur et instigateur de ce 8e événement. Mais avant ça, parlons inventaire du patrimoine, justement dans le cadre des journées européennes du patrimoine qui se tiendront ce week-end. Le MAG du Pays Midi-Quercy, première partie d'édition avec le service inventaire du patrimoine. On va vous parler des journées du patrimoine qui se déroulent justement ce week-end. Et avec moi, j'ai Karl Stadnicki, bonjour.
Bonjour.
Sandrine Ruefli, bonjour.
Bonjour.
Et Alexia Lerang.
Bonjour.
Bonjour. Vous nous proposez trois actions phares, à commencer par une conférence que vous allez donner à la salle Récollet de Caussade ce vendredi à partir de 20h. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Ça va être une petite promenade dans le temps et dans l'histoire avec une série d'exemples. On commencera peut-être, si on commence de façon chronologique, par un exemple à Puy-la-Roc et un autre à Bruniquel.
Oui, en effet, on a deux exemples de maisons médiévales à Puy-la-Roc et à Bruniquel. Ce sera les deux seuls exemples les plus anciens qu'on vous présentera, puisque l'essentiel des autres exemples, finalement, c'est un hasard de l'enquête, mais ce sont des exemples de la belle époque, quoi, donc de la fin du 19e siècle et du tout début du 20e siècle.
Alors, pardon, quand vous dites l'enquête.
À l'enquête d'inventaire, car nous menons un inventaire du patrimoine depuis une quinzaine d'années sur le territoire, toutes les trois, Sandrine, Alexia et moi-même. Et du coup, là, cette conférence, c'est en effet le résultat des dernières découvertes faites sur le terrain. Nous travaillons sur les 49 communes du pays Midi-Quercy, et donc là, on a choisi les communes de Nègrepelisse, de Caylus, de Ginals, je crois, pour toi, Sandrine.
Oui, Ginals également.
Et puis Puy-la-Roc. Et également, si, Montclar-de-Quercy, Sept-Fonds, puisqu'on va également aborder l'histoire des tramways à vapeur, parce qu'il y avait plusieurs lignes de tramways à vapeur sur le territoire. Et du coup, on va également vous parler de deux de ces lignes, celle qui reliait Caussade à Caylus et celle qui reliait Montauban à Montclar-de-Quercy.
À travers des exemples très précis.
Oui, effectivement, des exemples très précis. On ne va pas tout vous dévoiler maintenant. Mais on va découvrir des maçons tailleurs de pierre à Ginals. Et puis ensuite, on vous parlera d'œuvres d'architectes avec un énorme projet qui a été réalisé à Nègrepelisse, une grosse maison de villégiature.
Un château, on peut le dire carrément. C'est le château de Germain Olivier. Il s'appelle le château de Longuesaigues. C'est pas un château qui est ouvert au public. C'est puisqu'il s'agit d'un centre de post-cure psychiatrique depuis les années 60. Donc il n'est pas ouvert, contrairement au centre d'art La Cuisine qui lui est ouvert au public. Il y a deux châteaux à Nègrepelisse. Et aujourd'hui, vendredi soir à 20h au Récollet, on vous présentera également cet exemple-là, en effet, du château de Longuesaigues, qui est un magnifique château, belle époque. C'est la première œuvre de cet architecte du département qui s'appelle Germain Olivier. Et c'est vraiment une œuvre d'art totale. Et à la base, c'est la propriétaire, le commanditaire, c'est une personne qui s'appelle Henriette Veil-Cybelle et qui était une des muses de Antoine Bourdel. Donc vous verrez un petit peu tout ce milieu artistique et ce milieu privilégié de cette société montalbanaise aisée à travers cet exemple, en fait, à la belle époque, autour de jeux de tennis et autres divers loisirs que l'on pouvait effectuer à cette époque-là, lorsqu'on avait le temps et l'argent également.
On voyagera jusqu'en Espagne avec un autre exemple de villégiature, beaucoup plus modeste, mais qui reste vraiment intéressant. Là, on sera entre Caylus et Saint-Antonin-Noble-Val, avec une maison qui était une maison de vacances d'un Caylusien qui a voyagé jusqu'en Espagne et qui a réussi à faire construire une maison avec des caractéristiques propres aux villas de bord de mer. Voilà, on découvrira aussi cette maison-là. son jardin et ses dépendances.
Comme l'inventaire du patrimoine, c'est aussi le but est aussi de constituer les archives du patrimoine. On vous présentera aussi des bâtiments qui ont disparu. Ce sera le cas à Bruniquel, d'une maison du XIIIe siècle hein, qui a disparu, qu'on connaît que par des cartes postales anciennes ou des dessins ou des gravures. Et on vous racontera l'histoire de cette maison disparue. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas que du patrimoine disparu, puisque Alexia vous présentera une maison à Puy-la-Roque qui est bel et bien existante et qui date du Moyen-Âge et dont il reste quelques témoins, je crois. Pourquoi est-ce que tu voulais la présenter, Alexia?
Déjà, c'est pour rendre compte en fait d'un inventaire, on va dire, qui est en cours sur la commune de Puy-la-Roque et plus précisément sur le bourg, avec pour thématique privilégiée au départ l'architecture médiévale de ce village. Et cet exemple rend bien compte finalement d'une première campagne de construction dans Puy-la-Roque. Et ça permet d'aborder un petit peu des éléments de lecture assez précis de cette architecture et aussi tout ce qui a pu disparaître. Donc imaginez l'autre visage de Puy-la-Roque au début des, on va dire, entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Donc c'est un point de départ de l'histoire de ce bourg à l'époque médiévale qui vous sera évoqué lors de la conférence. Et il y en a beaucoup d'autres qui mériteraient, en tout cas pour Puy-la-Roque, d'être présentés également.
Et comme nous serons à Caussade, nous allons également vous présenter des exemples caussadais. Et là, on a choisi un exemple qui fait peut-être pas toujours l'unanimité. Il s'agit de l'ancienne halle de Caussade qui est située juste derrière l'hôtel de ville. Donc c'est une halle, tout le monde la connaît, hein, derrière la rue publique et la rue Georges Talbot et également la rue Gambetta. Elle a 12 colonnes en calcaire et une grosse terrasse en béton armé. Et c'est justement l'association des deux, de cette halle ancienne qui est fin du 19e siècle. Elle a été construite en 1869. Mais sa toiture traditionnelle a été démolie et on a fait en 1912 une terrasse en béton armé. Et du coup, on a associé une terrasse en béton armé avec des colonnes anciennes 19e et ça fait un édifice assez incongru dans Caussade. Mais on vous racontera les détails de sa construction. C'est très précurseur en fait pour l'histoire de la construction en béton armé puisque c'est un des premiers édifices publics construits avec cette type de système de béton armé qu'on appelle le système Hennebic, voilà, qui est hérité d'une personne qui s'appelait François Hennebic, qui à la fin du 19e siècle a breveté cette manière de construire en béton armé. C'était le monsieur numéro un du béton armé, l'inventeur du béton armé en définitive. Voilà, donc on parlera également de cette halle à Caussade. Vous voyez, les exemples sont divers en fait, entre le Moyen-Âge, la pierre, le béton, la terre cuite. On voyagera et on passera un peu du coq à l'âne.
Ouais, un voyage dans l'espace et dans le temps. Donc au sein du PETR Midi-Quercy, vous êtes vous-même amené à le découvrir. Vous connaissez le moindre petit recoin. On parlait la dernière fois de bornes Michelin, de divers moulins. Vous faites, vous avez édité un livre sur la terre crue. Elles disent rien, elles me regardent pas, là, elles me laissent toute seule comme ça.
Non, c'est ça.
C'est tout à fait ça.
C'est ça.
Il n'y a pas d'erreur.
Bon, c'est parfait. C'est donc dans le cadre de cette conférence vendredi, ce vendredi à 20h au Récollet. Je crois que c'est gratuit.
Bien sûr. C'est gratuit.
Et il faut venir déguisé.
Exactement. Masqué de préférence.
Voilà. Vous ne proposez pas que ça dans le cadre de ces journées du patrimoine, à destination des scolaires aussi, Sandrine.
Oui, effectivement. Alors, dans le cadre d'une opération nationale qui s'appelle les Enfants du patrimoine, le service inventaire, on propose une visite thématique. Donc, pour des classes, c'est une visite thématique sur l'architecture en pan de bois à Montricou. Et c'était sur inscription. La classe qui est déjà inscrite est une classe de Puy-la-Roque. Donc, on leur fera découvrir ce village, les techniques constructives. Ils devront chercher quelques indices à partir de dessins ou encore de photographies. Et tout ça en déambulant dans les ruelles de Montricou. Voilà.
C'est un peu des vacances pour vous quand même. Pour eux aussi.
Pour eux aussi, non?
Ouais, surtout pour eux.
C'est un peu des vacances et là aussi un peu un voyage dans le temps parce que c'est une architecture qui est architecture en pan de bois qui est propre, enfin qui est surtout représentée dans ce village-là. Mais c'est intéressant aussi que ce soit cette classe de Puylaroc qui soit inscrite pour cette visite, parce que, comme le disait tout à l'heure Alexia, on connaît beaucoup la pierre à Puylaroc, mais il y a encore quelques indices de maisons en pan de bois dans ce village. Donc ça, j'espère que ça leur permettra d'ouvrir les yeux sur ce matériau et ces techniques constructives. Donc c'est une action qui est menée dans le cadre de l'opération nationale Les Enfants du Patrimoine, qui est coordonnée par le CAUE. Et c'est le service inventaire qui propose cette visite thématique des maisons en pan de bois à Montricou.
Autre action, toujours pendant ces journées du patrimoine, une visite du camp de Caylus, le camp militaire. Alors il n'ouvre pas souvent ses portes, hein.
Oui, effectivement. Donc là, c'est la deuxième édition des journées du patrimoine, puisque nous avions participé à la première initiative donc en 2018, suite à un partenariat en fait qui s'est mis en place au départ entre le ministère de la Défense et le ministère de la Culture, avec qui donc nous avons des relations assez étroites en ce qui concerne nos travaux d'inventaire et de recherche. Donc à ce titre-là, nous avons été conviés à participer à des journées de repérage dans le camp, aux côtés donc des membres de la DRAC, qui ont en charge diverses thématiques de recherche. Hein, ça a trait à l'archéologie, il y a aussi tout ce qui est... Il y a également le conservatoire des espaces naturels qui est convié à ces réunions. Des géologues avec des représentants du parc naturel régional d'Écosse du Quercy. Donc suite à ces échanges, ça a été la volonté en fait du camp de Caylus d'ouvrir ses portes de manière ponctuelle sur des sites particuliers. Donc cette année, l'accès au camp se fera sous diverses formes, puisqu'il y aura la possibilité de faire des circuits en voiture, des circuits en vélo, des circuits à pied. Et sur certains sites, donc, entre guillemets, des professionnels qui seront là pour accueillir les visiteurs. Notamment, donc, nous, le service inventaire, nous serons présents le dimanche dans le vallon de Saint-Albi pour évoquer donc, la chapelle Saint-Albi, mais également l'ermitage qui se situe dans ce secteur. Trois dolmens seront également accessibles avec des commentaires et des visites le samedi et le dimanche. La fosse fatière de Roquebrune, le site du Pêche-Fer sur lequel nous étions présents donc en 2018, où nous parlions essentiellement donc lors de cet événement des constructions en pierre sèche qui sont conservées. Et cette année donc le thème sera plus orienté sur le maquis et la résistance en fait qui a été abrité dans ces lieux. Également donc un accès autour de Canterac avec le site gallo-romain et la villa romaine. Des présentations donc du Conservatoire des espaces naturels à divers endroits et également la présence des étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse pour évoquer les pigeonniers du Quercy. Plus tout un tas d'animations autres et qui seront présentées plus en détail donc directement par les personnes en charge de ce projet au sein du camp de Caylus.
On les recevra vendredi. Moi, j'ai surtout noté un baptême de l'air en ULM.
Exactement, oui, entre autres. Donc voilà, l'idée, c'est de mobiliser les forces des professionnels de chaque domaine sur ces journées pour faire valoir un peu ce site vraiment exceptionnel qui, du fait de sa fonction actuelle, se retrouve être un véritable conservatoire de certaines formes architecturales du secteur, mais aussi naturelles. C'est-à-dire que, comme Pêche-Vert, sur lequel nous avions travaillé en 2018, ces sortes de maisons gariotes se compte sur les doigts de deux mains aujourd'hui, alors que probablement elle faisait partie des formes récurrentes de l'architecture, on va dire, rurale, pastorale de la fin du 19e ou du début du 20e. Donc c'est une chance de pouvoir, même si c'est peu souvent, mais de pouvoir rendre accessibles ces lieux et de pouvoir donner la possibilité d'y faire des visites. Et également, donc, ce qui a été mis en place en 2018 et qui se poursuit, c'est le positionnement de panneaux financés par la DRAC, de panneaux pérennes, qui donnent une information sur, cette année, ça sera la chapelle de Saint-Albi, l'Ermitage, et également un dolmen. Donc voilà, et qui vont rester en place en vue de, voilà, d'autres projets de valorisation.
Oh bah c'est surtout les militaires qui vont le voir parce que le camp est fermé habituellement.
Mais c'est, l'idée, c'est que voilà, ces sites-là puissent certainement faire l'objet d'accès peut-être plus régulier, d'où la mise en place de ces panneaux pour mettre aussi en garde, mais souligner le fait que ces sites doivent être préservés, entretenus, et qu'on a des éléments intéressants à transmettre à leur sujet.
Alors la visite patrimoniale du camp militaire de Caylus, en votre compagnie, Alexia, je crois que c'est surtout le dimanche ou surtout le samedi.
Alors voilà, nous on sera présente le dimanche avec ma collègue de la DRAC sur le vallon de Saint-Albi. D'autres animations sont prévues les deux jours, samedi et dimanche. Mais dans tous les cas, tous les points de visite sont, j'ai envie de dire, en accès libre. C'est juste qu'on va essayer, vu le flux qu'il y avait eu en 2018, de programmer des temps où on démarre un commentaire pour les gens qui le souhaitent. Mais après, l'idée, c'est que les gens puissent circuler à leur rythme, en fait, sur l'ensemble des chemins qui vont être balisés.
Surtout qu'il y a de quoi se perdre, le camp est immense.
Voilà.
Je le redis, la conférence au Récollet de Caussade, ce sera ce vendredi à partir de 20h. La visite pour les scolaires, bah, ils ont de la chance, mais nous, ça ne nous concerne pas trop. Et la visite du camp militaire de Caylus, samedi et dimanche. Un grand merci, Sandrine, Carole, Alexia, pour nous avoir présenté un peu vos missions au sein du service inventaire du patrimoine qui vont être largement visible au cours de ce week-end des Journées du patrimoine. Merci beaucoup toutes les trois.
Merci.
Au revoir. Et on se retrouve après la musique dans ce mag du Pays Mini-Quercy. On vous proposera le vernissage et l'exposition entière du Salon Art Quercy qui se tiendra à partir de ce mercredi à l'espace Bonaïs de Caussade.
La vie du pays Midi-Quercy.
Deuxième partie de ce MAC du Pays Midi Quercy à propos du salon Art Quercy en les personnes de Geneviève et Jean-Pierre Condette. Bonjour tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Ce salon qui, c'est pas la première année hein, qu'il existe, c'est organisé par l'association Pigment 82, je crois.
Absolument, oui.
Vous nous proposez de rendre visite aux œuvres de 55 artistes pour cette année qui seront exposés à l'espace Bonaïs de Caussade. Mm-hmm. Des artistes peintures, sculptures, photos,
oui, tout
textiles,
à fait, oui.
Des chefs-d'œuvre, des œuvres et des chefs-d'œuvre, il y a marqué voilà. Sur le flyer.
Oui, nous l'espérons bien, que les spectateurs oui. Seront nombreux pour les apprécier.
Le vernissage de cette exposition, ce sera ce mercredi à partir de 18h30, avec une animation poético-musicale, je vois. Jean-Pierre.
Oui, enfin bon. Pour le vernissage, vu les circonstances, on a été obligé un petit peu d'adapter. Mais effectivement, on a un groupe local qui viendra nous parler de Baudelaire en chanson, de manière à animer le vernissage. Chaque année, c'est notre 8e édition quand même, donc on a déjà un petit peu connu. Là, chaque année, on inaugure le salon, moi j'aime pas le terme de salon, l'événement par justement quelque chose qui ne relève pas des arts graphiques. Alors soit le chant, soit le théâtre aussi, et là bon, ouais, c'est un petit orchestre qui est assez intéressant, qui a déjà fait ses preuves d'ailleurs pour les...
Et qui s'appelle Anacarsis.
Anacarsis, qui a déjà fait ses preuves à peine, qui a lancé déjà sur les...
Aux Baladines.
Les Baladines, voilà.
Qui ont lieu le week-end dernier. Le salon Art Quercy qui va se dérouler jusqu'au 27 du côté de Caussade. Qui sont ces artistes invités? D'où viennent-ils?
Alors les artistes qui sont peintres, sculpteurs, installateurs sont de la région Occitanie. On pense qu'il y a suffisamment d'artistes renommés, d'artistes intéressants, contemporains, pour qu'on les mette en valeur et qu'on les présente au public de Caussade et de la région.
Alors moi j'ai le catalogue sous les yeux, j'ai cette chance, le livret pardon des exposants, je peux dire que c'est quand même sacrément magnifique, hein. Il y a des très très jolies tranches de vie qui nous seront proposées sur ce salon Art Quercy. Et vous proposez aussi des visites guidées pour les classes, les groupes, on peut venir faire un petit tour oui. Au salon.
Oui, effectivement. Étant donné les conditions sanitaires actuelles, ces visites guidées sont un peu difficiles à mettre en place. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on propose pour les enfants et les adultes des visites guidées, c'est-à-dire des explications, faire le tour avec un accompagnement, une animation des différentes œuvres exposées. Voilà, en prenant rendez-vous, malgré tout, pour être prêt pour accompagner les groupes ou les personnes. Voilà, en téléphonant au 07 77 28 02 18.
Ou en se rendant sur www.arquercy.com. Et Arquercy, c'est aussi un partenariat avec le cinéma de Caussade.
Oui, alors bon, si je veux bien reprendre. Parallèlement, c'est la raison pour laquelle on fait un Art Quercy off. Et parallèlement à l'exposition, il y a des animations d'ailleurs diverses. Effectivement, il y a, on a 5 films avec le cinéma-théâtre de Caussade, mais également, on a le deuxième jour, le jeudi 17, on a Alain Alquier qui présente ses vitraux et les travaux qu'il a fait. C'est quelqu'un d'assez connu et qui est l'invité événementiel dont les œuvres sont projetées sur l'écran à Bonaïs et qui est l'invité événementiel de l'événement, de l'exposition.
Voilà. Qui sera ouvert, comment ça se passe? On vient toquer à l'espace Bonaïs, c'est ouvert
L'espace Bonaïs est ouvert de 10h à 19h non-stop, donc on accueille le public, les artistes font une permanence, donc le public aura la chance de rencontrer pas mal d'artistes et au vernissage, bien sûr, ils seront pratiquement tous là, présents. Et c'est intéressant cette alternance, ce dialogue qui peut se nouer entre le public et les artistes, bien sûr.
Le vernissage, je le redis, le mercredi 16, c'est à 18h30 à l'espace Bonaïs de Caussade pour ce salon Art Quercy. Excusez-moi, j'ai oublié, le combien-tième salon ?
Le
8e.
Le 8e. Oui, ça fait 8 ans. En 2012, on a démarré, voilà.
Et ce sera jusqu'au 27 septembre, 55 artistes à voir à l'espace Bonaïs. Un grand merci tous les deux de nous avoir présenté vos 55 invités à cette antenne. Et puis du coup, rendez-vous à l'espace Bonaïs ce mercredi.
Merci beaucoup à vous.
Oui, merci.
Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.